Seigneur, c'est dimanche. Nous voici de nouveau réunis, tous ensemble, autour de ta parole, assoiffés de ta présence. Nous sommes plus que deux ou trois, tu es au milieu de nous. Mais est-ce que nous sentons que tu es là, au cœur de nos vies? Aide-nous à faire le ménage de tout ce qui est inutile, superflu, et qui recouvre ta lumière éclatante et obscurcit notre vue. Fais luire ta clarté. Aide-nous à refléter ta lumière, à ouvrir notre intelligence à la profondeur des textes que nous allons lire, inspirés et si riches, mais souvent difficiles à comprendre pour nous qui sommes si distraits dans un monde qui ne nous laisse guère de temps et de calme pour te retrouver au plus profond de nous. Amen. Nous lisons tout d'abord le psaume 8. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Mieux que les cieux, elle chante ta splendeur. Par la bouche des tout-petits et des nourrissons, tu as fondé une forteresse contre tes adversaires pour réduire au silence l'ennemi revanchard. Quand je vois tes cieux, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées, qu'est donc l'homme pour que tu penses à lui, l'être humain pour que tu t'en soucies? Tu en as presque fait un dieu, tu le couronnes de gloire et d'éclat, tu le fais régner sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros ou petit, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui court les sentiers des mers. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Notre deuxième lecture est une partie du prologue de l'Évangile selon Jean, versets 1 à 12. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Amen.
Thank you. Je vous invite dans un évangile apocryphe, c'est-à-dire qui ne fait pas partie de la Bible et qui n'a pas été retenu par l'Église, figure une parole attribuée à Jésus, « Celui qui est proche de moi est proche du feu, mais celui qui est loin de moi est loin du royaume. » On ne sait pas si Jésus l'a vraiment prononcé, mais elle a des ressemblances avec le texte lu tout à l'heure. Car loin du Christ, on est loin du salut, alors que proche de lui, on se trouve dans une ambiguïté redoutable. Celle d'un monde qui est à la fois création divine et soumis aux forces du mal. Au commencement était la parole, c'est-à-dire Jésus, et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Notre terre est l'œuvre du Christ, avec sa beauté, ses montagnes, ses mers, ses paysages, notre planète est une merveille. De surcroît, l'apparition de la vie en fait un prodige singulier. À tel point d'ailleurs que les astronomes actuellement la recherchent dans le reste de l'univers. Au début, ils étaient persuadés qu'ils la trouveraient facilement. Pour eux, en effet, elle est plus une probabilité qu'un miracle. Notre univers contient 200 milliards de galaxies, avec chacune des centaines de milliards de planètes, il n'y a donc aucune raison pour que la vie n'ait pas surgi ailleurs. Bien sûr, il y a des restrictions, comme la distance entre une planète et son étoile. Par exemple, la Terre se situe à 150 millions de kilomètres du Soleil. Si elle avait été 10 millions de kilomètres plus près ou plus loin, elle aurait été soit trop chaude, soit trop froide pour que la vie s'y développe. Le résultat aurait été similaire si elle avait été un peu plus légère ou un peu plus lourde. Dans le premier cas, l'oxygène se serait échappé. Dans le deuxième cas, elle aurait retenu des gaz mortels qui auraient empêché son apparition. Il y a encore bien d'autres conditions à l'existence de la vie. C'est pourquoi parmi les 6000 exoplanètes découvertes jusqu'à présent, les astronomes se concentrent sur celles qui pourraient être propices à son émergence. Pour le moment, ils n'en ont trouvé aucune. Ça ne signifie pas qu'ils en découvriront jamais. Théologiquement d'ailleurs, ça ne poserait aucun problème. Dieu est libre de créer ce qu'il désire. Mais ça signifie quand même que notre Terre est davantage un miracle qu'une probabilité. En rappelant que notre monde est une création divine, l'évangile de Jean nous incite à l'aimer. Pas de manière idéale, mais comme Dieu l'aime, avec ses aléas, ses imperfections, ses faiblesses, ses hommes et ses femmes qui peuvent être égoïstes parce que nous aussi on est égoïstes, qui peuvent être jaloux parce que nous aussi parfois on est jaloux, qui peuvent être désagréables parce que nous aussi on a nos mauvais moments. L'Évangile nous appelle à aimer ce monde dans sa réalité. Dans son roman « Les frères Karamazov », Dostoïevski présente un jeune chrétien profondément affecté par le fait que le cadavre de son vénéré confesseur entre en putréfaction et répand une odeur insupportable. Dans son trouble, il écrit « Je ne veux pas me révolter contre Dieu, mais je ne veux pas accepter son monde. » C'est tout le contraire. Il s'agit d'accueillir ce monde comme il est. Le jeune homme, d'ailleurs, finira par le faire lorsqu'il comprendra véritablement l'amour du Christ. À un certain moment, il se prosternera sur le sol en l'embrassant et en déclarant « Je veux l'aimer de toute éternité ». Il rejoindra ainsi Luther qui déclarait « J'aime le monde malgré ses obscurités. Je veux donner mes soins à l'arbre tout entier, ne serait-ce que pour en obtenir une ou deux bonnes pommes. » Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ces versets sont pourtant suivis par un autre bien plus sombre. La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Le monde ne veut pas de Dieu. Ce ne sont pas seulement les autres qui écartent le Créateur. Nous aussi. Nous aussi, on est partagés. Une part en nous accepte le message divin, mais une autre doute et s'interroge. On y croit et en même temps on se demande pourquoi Dieu n'en fait pas plus pour nous. On fête la résurrection de Jésus, mais on continue d'avoir peur devant la mort. On applaudit certaines valeurs de la Bible et on laisse de côté les exigences qui nous conviennent moins. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. On devrait plutôt dire, il est venu chez nous, mais on ne le reçoit pas. Cependant, en dépit de tout ce qu'on fait, on reste l'objet d'une promesse éternelle. Certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Malgré nos doutes et nos chutes, on reste les enfants de Dieu. Sa lumière continue de briller pour nous. D'une manière qui éclipse même le côté sombre de la réalité. Et je voudrais vous dire comment, à l'aide d'une anecdote. Dans le désert somalien, il y a une météorite de 13 tonnes qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Avant les troubles qui agitent ce pays, de nombreux touristes venaient l'admirer chaque année. Elle est tombée près du village d'El Ali il y a un millier d'années. Plusieurs légendes circulent à son sujet. L'une d'elles raconte qu'à l'époque, le désert somalien était vert et fertile, mais que les habitants avaient cessé de croire dans la divinité locale qui s'appelait Vaak. Pour les punir, celle-ci a fait tomber des pierres volcaniques et a laissé cette météorite pour qu'en la voyant, les habitants se rappellent du chemin à suivre. Jésus est comme cette météorite. Il nous rappelle notre vocation d'enfant de Dieu. Quand on hésite entre le suivre et nous installer dans le confort de nos habitudes, dans l'approbation des autres, dans les modes actuels, il nous indique toujours à nouveau où se trouve sa lumière. Quand on est partagé entre lui et nos intérêts, il nous montre l'intérêt qu'on a à lui donner la priorité. Mais que signifie concrètement se tourner vers la météorite, ou plutôt regarder vers le Christ? Trois choses. D'abord, ça veut dire louer notre Créateur pour son œuvre. Pas seulement pour la beauté de celle-ci, mais également pour la réalité. Le louer par notre accueil des autres, malgré leurs faiblesses et leurs défaillances. Le louer malgré les aléas de la vie. Ensuite, regarder au Christ, c'est éviter de se prendre trop au sérieux. Vous connaissez le dicton « Quand un singe se regarde dans un miroir, il n'y découvre pas un apôtre. » On n'est pas au-dessus de la mêlée. On fait partie de la mêlée. Se donner trop d'importance, c'est avoir une idée erronée de ses capacités et se condamner à ne plus avancer. Au contraire, porter son regard sur l'Évangile, c'est permettre à Dieu d'opérer des actes remarquables à travers nous. Enfin, regarder au Christ, c'est prendre le temps de méditer ses conseils, comme la légende somalienne invitait les habitants du désert à se tourner vers la météorite pour se rappeler de leur Dieu. Dans l'ambiguïté de ce monde, qui est à la fois création du Seigneur et opposé à lui, prenons du temps pour méditer afin de faire pencher la balance du bon côté. Oui, faisons pencher l'année 2026 du bon côté. Soyons assidus à la prière, au culte, à notre vie spirituelle. Construisons des liens fraternels dans la paroisse. Ainsi, en donnant nos soins à l'arbre entier, on obtiendra peut-être bien plus qu'une ou deux pommes. Amen.